Mais voilà, je vous propose de continuer du coup sur une nouvelle série que j'ai entamée la semaine dernière sur le péché. Sur le péché comme obstacle à la sanctification. On est sur cette grande thématique de la sanctification et on aborde du coup cette série assez longue. Du coup, qui parle du péché, c'est un sujet qui est pas simple. On n'aime pas parler de ce qui va pas dans nos vies et de quelque part de ce qui peut nous ronger à l'intérieur. Mais c'est important de pouvoir poser des mots. Des fois, on parle de péché, mais ça reste très abstrait. C'est quoi? Et on a vu du coup la dernière fois, finalement, le péché, qu'est-ce que c'est? Au plus profond de nous-mêmes, c'est l'indépendance, la non-confession à Dieu de ce que nous sommes. Et ce matin, je vous propose d'aborder un autre obstacle, qui est un autre péché, c'est l'endurcissement du cœur. La Bible en parle longuement et longtemps. Je vais aborder qu'une partie d'ailleurs de ce sujet, qui pourrait faire l'objet d'une série complète, mais ce n'est pas le but ce matin. L'endurcissement du cœur. Et avant de commencer, peut-être vous poser la question, c'est quoi avoir le cœur endurci pour un chrétien? Est-ce que vous avez un élément de réponse? Ne pas avoir d'empathie, alors oui, c'est pas tout à fait juste, mais oui, ça peut en faire partie, on va dire, mais ça dépend comment tu le places. Oui. Ne pas pardonner, ça peut en faire partie, effectivement. Oui, ça peut en faire partie. Ne pas obéir. Ah, là, c'est oui, plus juste. Ça rentre dans ne pas pardonner. Quand on ne pardonne pas, on n'obéit pas à Dieu, effectivement. Ne plus écouter la parole, c'est très juste là. Alors du coup, je vous pose la question, suite, et c'est intéressant ce que dit Jean-Marie, c'est ne pas obéir à Dieu. Mais du coup, est-ce qu'à chaque fois qu'on n'obéit pas à Dieu, on a un cœur endurci? Ça peut nous amener à cela, et effectivement, mais du coup, c'est quoi? C'est quoi finalement? Comment on peut le définir? Parce que la désobéissance n'est pas forcément l'endurcissement, hein. Oui, à la non remise en question. Alors, le côté centré sur soi, ça peut l'être, mais pas forcément, parce que ça peut être un péché comme tant d'autres. Fermer son cœur, ça veut dire quoi, fermer son cœur, Fred? Oui, bon, c'est bien, vous avez donné des bons éléments de réponse. En fait, ça rejoint ce que Jean-Marie disait, ça rejoint la désobéissance. Oui, Stéphie? Ouais, ça en fait partie aussi. Mais en fait, c'est un processus, l'endurcissement, c'est pas une fois. C'est pas on désobéit une fois, c'est en lien avec la désobéissance, mais c'est celui qui constamment n'obéit pas à Dieu. Et on va voir ce matin, il y a plusieurs exemples, hein, dans la Bible. C'est celui qui va une fois ne pas obéir. Et ce qui se passe, c'est qu'au fond de nous, il y a le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. C'est lui, alors voilà, il peut agir à travers différentes choses, les personnes, la parole, mais aussi notre conscience. Et il y a un moment, du coup, le Saint-Esprit, sa voix, on la ferme. En fait, il y a un lien très fort avec l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et fermer l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, finalement, permet à la personne, du coup, il le désobéit une fois, il sait qu'il désobéit à Dieu, mais au fur et à mesure qu'il désobéit à chaque fois, il ne sent plus le problème. Pour lui, il n'y a plus de problème. Avec Dieu, il pense que tout va bien, alors qu'en fait, il est complètement perdu. Et en fait, c'est le processus de désobéissance qui est mené à son terme. Le refus, quelque part, d'être fidèle à Dieu. J'ai commencé par une histoire. Alors, désolé, cette histoire, elle est assez sombre. On a eu l'affaire Jubilard cette semaine, mais c'est pas plus mal cette histoire-là. C'est peut-être certains d'entre vous connaissent, peut-être pour ceux qui sont un peu plus âgés, l'affaire Jean-Claude Roman. Ça vous dit quelque chose? L'affaire Jean-Claude Roman, c'était d'apparence un homme qui avait la trentaine, quarantaine, plutôt même la quarantaine, un homme modèle, un mari aimant, un père attentionné. Il avait deux enfants, c'était un très bon voisin, ses voisins vont dire de lui que c'était un voisin exceptionnel. Il était médecin et chercheur à l'Organisation mondiale de la santé, du coup à Genève en Suisse. Il était chrétien pratiquant et allait à la messe avec sa famille tous les dimanches, en véhiculant du coup autour de lui des valeurs chrétiennes. Tout le monde le pensait presque parfait, et le connaissait comme cela, c'était quelqu'un qui était respecté dans le village où il était. Tout semblait parfait. Mais un jour, tout va s'effondrer En 1993, janvier 1993, il va tuer sa femme, ses deux enfants, puis ses deux parents. Et puis il va tenter de se suicider, un suicide qui va pas y arriver, mais en fait, il voulait pas vraiment se suicider, c'est une apparence de suicide. Et il va être condamné suite à tout cela avec un procès à la perpétuité. Comment c'est possible? Et la France entière va découvrir, du coup, et si vous vous rappelez, cette année-là, du coup, l'horreur de son histoire. C'est pas juste un meurtre comme ça. Cet homme, pendant 18 ans, il a tout inventé. Il n'était pas médecin, encore moins chercheur à l'OMS. Il vivait dans le mensonge intégral. Comment il a pu en arriver là? Et tout a commencé, en fait, 18 ans, 20 ans en arrière, en 1975, Jean-Claude Roman est alors un brillant étudiant en médecine. C'est un homme qui a l'avenir devant lui, il est majeur de sa promo, je crois, en médecine, et il doit passer en deuxième année de médecine, sauf qu'il arrive en retard un jour à un examen. On ne sait pas la raison, mais il arrive en retard, et du fait de son retard, il va rater son passage, il va rater son examen, et il va rater son passage en deuxième année. Au lieu d'avouer son échec à ses parents et à ses proches, il va dire « j'ai réussi ». Parce que c'est la honte qui le gagne, l'orgueil. Et de ce petit mensonge, pour éviter la honte, ça va devenir le point de départ d'une spirale infernale et mortelle. Cet homme va se marier, il va faire croire qu'il a réussi, qu'il est médecin, parce qu'il va passer son temps à la bibliothèque. Il connaît très bien tout le langage du coup du corps médical, et il s'invente une vie. Chercheur à l'OMS. Et de plus en plus, ses mensonges sont gros, de plus en plus même dangereux. Il va se marier, il va avoir deux enfants, et c'est ce mensonge-là qu'il va vendre à tout son entourage. C'est terrible, hein? Une vie de mensonges. Pendant 18 ans, Jean-Claude Roman a menti à tout le monde, sa femme, ses parents, ses amis. Il faisait croire qu'il travaillait comme chercheur à l'OMS alors qu'il passait ses journées à la bibliothèque ou dans sa voiture. Il vivait de mensonges, de faux semblants et d'emprunts, de dettes. Tout va s'effondrer quand un de ses amis médecins, alors qu'il n'est pas médecin, lui demande de rembourser 900 000 euros, 900 000 francs à l'époque. Il ne supporte pas l'idée d'être découvert et alors qu'il a 38 ans, il va tuer toutes ses femmes pour ne pas leur dire la vérité. Derrière la façade du bon mari et du père idéal, tout s'était écroulé à l'intérieur. Et voilà ce que fait un cœur quand il refuse d'affronter la vérité, un cœur endurci. C'est un processus. Petit à petit, le péché devient une prison. Et quand le mur tombe, il entraîne tout. Lors de son procès, il dira une phrase glaçante. « J'ai tué tout ce que j'aimais, ma femme, mes deux enfants, ma mère, mon père, mais aujourd'hui, je suis enfin moi. Je peux vivre dans la lumière. » C'est terrible. Le péché qu'on cache, mes frères et sœurs, ce matin, pour sauver notre image, ça peut être le mensonge ou d'autres péchés. Le péché qu'on cache pour sauver notre apparence finit toujours par devenir notre maître. C'est biblique. L'histoire de Jean-Claude Roman, alors, elle est extrême, certes. Heureusement, c'est pas les histoires qui courent les rues. Elle est tragique, mais elle nous rappelle une chose. Il y a une vérité essentielle dans cette histoire, c'est que l'endurcissement du cœur ne commence jamais brutalement. Elle commence par un tout petit péché. Qu'on va excuser, qu'on va justifier, par orgueil, par toutes sortes de choses, et qui va devenir mortel. C'est l'apôtre Jacques qui va dire ceci, « Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et qui l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. » Ici, la mort spirituelle, mais aussi physique. Le péché, ce n'est pas un virus qu'on le contrôle. Il engendre toujours la mort. Et l'endurcissement, c'est un péché mortel. Jésus va en parler, c'est le lien avec le blasphème contre le Saint-Esprit, celui qui refuse d'écouter Dieu. Alors il y a d'autres passages et on pourra en parler peut-être une autre fois, où même Dieu veillera jusqu'à endurcir le cœur des hommes qui refusent de lui obéir. C'est pas Dieu qui est mauvais, mais Dieu quelque part met un point final à la désobéissance continuelle. Ce matin, nous allons voir à travers deux exemples, un mauvais exemple et un bon exemple, comment agir face à l'endurcissement qui nous guette tous, mes frères et sœurs. Parce que l'endurcissement, on ne s'en rend pas compte. Et on a tendance à le justifier comme Jean-Claude Roman, en pensant qu'on contrôle, mais on ne contrôle rien. Un cœur qui s'endurcit, on va voir cet exemple, et l'autre qui trouve la rédemption. Je vais commencer par cet exemple, et le premier exemple, c'est un mauvais exemple, c'est l'exemple du roi Saül. Je vous propose du coup ce matin, on ne va pas lire les textes parce que c'est très long, je vais vous raconter des histoires. Et mon premier point, c'est quand le cœur commence à se fermer. C'est le début de l'endurcissement, le cœur qui commence à se fermer. On est dans 1 Samuel chapitre 13, vous le lirez chez vous. Israël, le peuple d'Israël est en guerre contre un ennemi redoutable, les Philistins. Les Philistins sont à l'époque un peuple, c'est aujourd'hui les Gazaouis, là. Bon, c'est une autre histoire, hein. C'est pas les mêmes, on va pas comparer aujourd'hui la situation actuelle et d'avant. Mais voilà, c'est de tout temps finalement, un peuple d'Israël qui est en guerre contre les Philistins. Et le roi Saül, qui est roi d'Israël, il est jeune dans sa fonction de roi, c'est le premier roi, et il est très jeune. Il veut bien faire, mais il a peur. Et autour de lui, son armée tremble, parce qu'en face, les Philistins sont plus forts que le peuple. Certains soldats vont même fuir pour ne pas affronter le combat et la potentielle défaite. Et Samuel, le prophète de Dieu, va dire à Saül, « Attends 7 jours, j'arriverai et nous offrirons un sacrifice à Dieu avant la bataille. » Dieu promet qu'il sera là à travers le prophète Samuel, mais Saül doit attendre 7 jours. Il doit être patient. Mais voilà, les jours passent et Samuel n'arrive pas. Et le 7e jour tire à sa fin et Saül voit ses troupes s'éparpiller. Alors il prend les choses en main, il va dire « Amenez-moi les animaux, je vais faire le sacrifice moi-même. » Et dès qu'il a fini d'offrir le sacrifice, il désobéit à Dieu. Le prophète Samuel arrive et lui dit « Qu'as-tu fait ?» Et Saül va répondre « Le peuple s'en allait, tu tardais, les ennemis arrivaient, j'ai cru bon d'agir. » Et Samuel va lui dire « Tu as agi en insensé, tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'avait dit. » Et ce jour-là, dans le cœur de Saül, quelque chose s'est fissuré dans son cœur. Pas une rébellion ouverte, pas un rejet violent. Il reconnaît hein, d'ailleurs qu'il a mal fait. Mais il justifie. Une petite désobéissance raisonnable. Mais derrière cette décision, il y avait une pensée dangereuse. Dieu tarde, je vais m'en occuper moi-même. Et c'est là que son endurcissement commence, quand on cesse d'attendre Dieu et qu'on commence à le remplacer. Dans l'histoire du roi Saül, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un roi qui tombe dans le mauvais. C'est très progressif. C'est l'endurcissement progressif de celui qui est appelé de Dieu, qui aime Dieu au début. Et petit à petit, dans ses errements, dans ses erreurs, finalement, il n'y a pas de remise en question. Et l'endurcissement du cœur, quelque part, commence rarement par une grosse désobéissance. Souvent, il commence par un manque de confiance dans le Seigneur, et on garde les apparences. On agit sans écouter, et quelque part, Dieu nous parle et nous dit, comme du coup dans le Nouveau Testament, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Quand Dieu tarde, mes frères et sœurs, est-ce que je lui fais encore confiance? Est-ce que je crois vraiment qu'il est bon, même quand je ne comprends pas son timing? Ou est-ce que je me réfugie dans mes propres certitudes, dans mes propres raisonnements? Jésus, dans le jardin de Gethsémané, avant la croix, il aurait pu dire « Père, tu tardes à agir », mais il va dire « Non, pas ma volonté, mais la tienne. » La confiance totale en Dieu. La confiance totale en Dieu et l'obéissance, c'est l'opposé de l'endurcissement. Alors si dans ce premier épisode, Saül désobéit par la peur, une peur qu'on peut comprendre, hein. On va voir par la suite qu'il va désobéir avec assurance. Ce premier péché, quelque part, qui désobéit pas? J'ai envie de dire, on va pas lui jeter la première pierre. En plus, le contexte est difficile, le peuple s'en va face à une potentielle défaite. Et Saül, il reprend pas le prophète Samuel. Il lui dit pas « j'ai raison ». Mais cette première désobéissance, où il n'y a pas de pardon, hein, très clair dans ce texte, va entraîner Saül, du coup, dans une désobéissance avec assurance. Ce qu'il n'a pas confessé est devenu une habitude, et comme Jean-Claude Roman, qui vivait avec son péché de manière naturelle, c'est ainsi que le cœur passe de la fissure à la pierre. Cœur qui devient dur. Saül désobéit parce qu'il doute de Dieu, mais au lieu de se repentir, il laisse cette peur s'installer. Et sa désobéissance devient quelque part même, à la limite, allez, c'est normal ce que j'ai fait. Vu le contexte, en plus Dieu a tardé, bon, j'étais dans mon droit. Et ce qu'on va voir du coup par la suite, 1 Samuel 15, quelques années plus tard, Saül a changé. Il est toujours roi, il parle toujours de Dieu, mais on sent que quelque chose s'est endurci à l'intérieur. Cette fois, Dieu va lui donner un ordre clair. Un ordre encore pour aller combattre un peuple, le peuple d'Amalek. Et Dieu va lui dire, va combattre le peuple d'Amalek et détruis tout, ne garde rien pour toi. Dieu voulait faire justice après des siècles d'injustice et Saül, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre, il va remporter la bataille et la guerre, mais au lieu de tout détruire, il va essayer de garder les plus belles bêtes et même de garder le roi adverse vivant. Il désobéit à la parole de Dieu. Pourquoi? Le texte donne des raisons. Hein. Parce que pour lui, ça lui semble logique. Et surtout parce qu'il veut plaire au peuple. Et quand Samuel arrive, le prophète Samuel arrive, Saül l'accueille tout sourire. Il va dire ceci, que l'Éternel soit béni, j'ai obéi à la voix de Dieu. Il fait pas semblant, hein. Et son cœur est dur. Il pense, lui, qu'il obéit à Dieu, alors qu'il est complètement dans l'erreur. Mes frères et sœurs, combien de fois? Peut-être nous, des fois, on pense qu'on obéit à Dieu alors que nous sommes complètement à côté de la plaque. Parce que nous n'avons pas su nous remettre en question. Samuel va répondre, qu'est-ce que j'entends? J'entends le bêlement des brebis et le meuglement des bœufs. Qu'est-ce que va répondre Saül? Il aurait pu se dire, oui, c'est vrai, j'ai mal fait. Non, il continue. Ah oui, mais ça, c'est pour les offrir en sacrifice à Dieu. Oh, la belle intention. Dieu lui a demandé de tout éradiquer, mais lui, il va garder quand même pour offrir en offrande devant Dieu. Voilà, excuse spirituelle. Des fois, on peut se cacher derrière des excuses spirituelles, mais qu'est-ce que Dieu demande? C'est l'obéissance. Samuel, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justifier, il va minimiser sa faute, et ça, c'est le signe d'un cœur endurci. Face à la faute, face à l'erreur, c'est quand on justifie ce que Dieu condamne. Mes frères et sœurs, pour nous, peut-être qu'on peut se faire reprendre par la parole de Dieu ou par des frères et sœurs, hein, d'ailleurs, qui peuvent nous dire, là, ça va pas, comment on réagit? Est-ce que je me justifie dans ce que je fais? Et là, je suis dans l'endurcissement, dans le processus d'endurcissement. Je me trouve des excuses. Ou est-ce que quelque part, je suis dans l'humilité, je reconnais ma faute? Samuel va avoir cette parole. À ce prétexte spirituel de Saül, cette parole forte, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. Et cette parole forte, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux m'offrir ta louange, tu peux m'offrir tout ce que tu veux, Saül, mais ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas ça, c'est ton obéissance. Celui qui obéit à Dieu, du coup, est loin de celui qui pense qu'il est dans son propre droit. Quelque part, fuit cet endurcissement. Qu'est-ce que va faire Saül? Face à cette parole de Samuel, il va tomber à genoux. On pourrait se dire, il va se repentir, mais pas du tout. La réaction de Saül, ça va être la peur. Il va dire, honore-moi devant le peuple, et il pense encore à son image. Parce que, bien sûr, là, Samuel, il parle devant tout le monde. Et du coup, Saül, au lieu de... Cette parole quand même terrible de Dieu, de demander pardon à Dieu, mais dire, attends, honore-moi devant le peuple, puis quelque part, on verra ça après. Il ne saisit même pas la gravité, du coup, de son état. Même dans sa faute, il cherche à paraître. C'est le Jean-Claude Roman de l'Ancien Testament. Le même cœur qui doutait devient maintenant sûr de lui, même dans sa faute, même dans la reprise, même quand Dieu le reprend, Saül n'a plus le cœur sensible. Il n'écoute plus. Il ne peut plus écouter. Parce qu'il s'est mis dans un processus de destruction, où le péché a pris la place, où l'orgueil a pris la place. Il est devenu insensible à la voix de Dieu. Et frères et sœurs, ce matin, est-ce que je cherche à obéir à Dieu ou simplement à sauver les apparences? Nous avons un Dieu qui sonde nos cœurs. Il sait ce que nous sommes. Et ce qu'il attend de nous, c'est l'humilité, la remise en question pour que lui puisse agir au travers de nous. Dieu veut restaurer nos vies, mais il ne restaure pas celui qui pense qu'il est quelqu'un. L'endurcissement, quelque part, c'est quand je finis par croire que Dieu comprend mes excuses. Quelque part, Dieu va me faire grâce. Dieu est bon, Dieu est amour, il va me faire grâce. Ça, c'est mal connaître la grâce de Dieu. Quand, quelque part, ma raison passe avant sa parole, avant sa volonté. Saül, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va tout perdre. Il va perdre son royaume, la présence de Dieu, la paix du cœur. Et comment il va terminer? Très mal. Il va mourir. Lui aussi s'est enfoncé dans son péché. Il a eu le cœur dur. Allez, un bon exemple quand même. C'est bien de terminer par des bons exemples, parce que la Bible aussi montre un bon exemple. C'est le roi David. Le roi David, au niveau de ses péchés, il est pire que Saül. Ce qui est encore plus intéressant. Si on doit choisir quelque part au début de chacun de la vie de ces deux rois, David y fait pire. Le roi David, il est choisi par Dieu aussi, et il a tout, la victoire, la gloire, la faveur divine, mais un jour, au lieu d'être à son poste, à son travail, à la guerre, il va envoyer ses soldats, lui, il va rester chez lui, il va rester au palais, et puis de la chambre d'où il est, il va voir une très belle femme qui se baigne nue. Et cet homme, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoiter, et cette femme est mariée, elle s'appelle Bathsheba. Elle est mariée à un de ses plus fidèles soldats d'ailleurs. David va la faire venir, il va coucher avec elle, elle va tomber enceinte. Et pour cacher son péché, comme Jean-Claude Roman, lui c'était le mensonge, mais là c'est pareil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appeler son mari et il va le faire mourir au combat, pour qu'il puisse prendre sa femme. C'est froid, c'est prémédité, c'est calculé, c'est honteux. Il fait tuer du coup un de ses soldats, pour prendre du coup sa femme, pour épouse. Mais Dieu voit tout. Et qu'est-ce qu'il va faire? Samuel, il est déjà mort depuis longtemps, il va envoyer un autre prophète, le prophète Nathan. Et Nathan, il va venir, il ne va pas accuser David comme cela, il va raconter une histoire. Et alors qu'il va trouver David, David, il ne le trouve pas tout seul la nuit, hein. Il le trouve devant toute la cour royale est présente, David il est sur son trône, et Nathan va raconter cette histoire. Il y avait un riche et un pauvre, le riche avait beaucoup de brebis, le pauvre n'en avait qu'une seule, qu'il aimait comme sa fille. Un jour, un invité est venu chez le riche, et au lieu de prendre une de ses propres brebis, il a pris celle du pauvre. David va se lever furieux en entendant cette histoire, et il va dire « cet homme mérite la mort », et Nathan va répondre tout de suite « cet homme, c'est toi. » La honte devant tout le monde. Nathan dévoile le péché de David devant toute sa cour. Qu'est-ce que fait David? Contrairement à Saül, il aurait pu dire « attends, la forme ne va pas, je suis roi quand même, tu respectes et tu me parles à côté. » Non, il s'effondre sur place, il déchire ses vêtements, il met de la cendre sur son visage et il dit « j'ai péché contre l'Éternel ». Il s'en fiche de qui il y a autour, ce qui compte pour David, c'est sa relation à Dieu. L'humilité, ici, va le sauver. Il n'essaie pas de se justifier, de trouver des excuses, de chercher à paraître, contrairement à Saül. Il s'humilie, se repent devant toute la cour et devant Dieu. Il va dire ceci dans le psaume 51, « J'ai péché contre toi seul et contre toi seul, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton esprit saint. » C'est tout ce qui compte pour le roi David, et il a bien raison. Le texte ne le dit pas, hein, mais j'imagine bien toute la cour parler après. Ah, c'est ça le roi ? Mais David n'en a que faire. Il sait qu'il est en tort, et c'est entre lui et Dieu. C'est le cœur brisé que Dieu relève. Pas le cœur qui cherche des excuses, le cœur qui est rempli d'humilité. L'endurcissement du cœur se renverse quand le cœur s'ouvre à la vérité, et s'ouvre à la vérité ici divine. Je vous pose une question. Quelle est la différence entre la honte et la repentance ? Puisque c'est la différence qui entre ces deux rois. Quelle est la différence qui entre la honte et la repentance ? Ouais, vous avez entendu ce qu'a dit notre sœur ? La honte, on la cache, la repentance, on l'exprime. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait ça. La honte, on va forcément cacher. Et quand on cache le péché, la lumière de Dieu ne brille pas. En plus, tout à fait, c'est tout le processus qui va aussi derrière. Dieu nous appelle ici, j'en ai parlé la semaine dernière, hein. Un des remèdes contre le péché, c'est la confession. Confesser devant Dieu, ça on le sait, mais c'est aussi confesser les uns aux autres. C'est, dans le Nouveau Testament, c'est ça, confessez-vous les uns aux autres. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de s'ouvrir à tout le monde, hein. Sinon vous allez avoir des problèmes et vous allez m'en créer. Il s'agit de prendre des personnes de confiance, des frères et sœurs à qui nous avons pleinement confiance. Et du coup, il faut créer ce lien de confiance. J'en ai parlé mardi soir à la réunion de prière, sur un autre sujet d'ailleurs, que j'aborderai peut-être une autre fois. Mais ici, il s'agit du coup de savoir confesser nos péchés. David, avec Nathan, il a une relation particulière. Avec le prophète Nathan, il a une relation particulière. Ce qui fait que quand Nathan vient le reprendre, il confesse son péché. Il aurait pu dire, David, j'ai fauté. Au plus profond de lui, il aurait pu dire, j'ai fauté devant Dieu. Je vais retourner dans ma chambre tout à l'heure et je vais crier à Dieu de m'aider. C'est pas ce qu'il fait. Immédiatement, hein, le texte est précis. Il déchire ses vêtements et il demande pardon au Seigneur. Ça montre ici que, quelque part, il n'y a pas d'orgueil. L'humilité. L'humilité est là. Reconnaître son tort, ce n'est pas une faiblesse. C'est le début de la guérison. Et la sanctification, c'est cela. C'est apprendre à rester sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui seul qui est capable de nous ramener à la raison. Mais si nous devenons durs, si nous lui fermons quelque part la porte, une fois, deux fois, lui après, je le dis assez souvent, Jésus et le Seigneur et le Saint-Esprit, ce n'est pas le GIGN. Ils ne viennent pas vous frapper et fracasser la porte de votre cœur. Si vous ne voulez pas l'ouvrir, il reste devant la porte et lui, il frappe. Et à un moment, ça ne frappe plus. Et on pense qu'on est toujours sur le bon chemin. Alors que du coup, nous sommes perdus. Apprendre à garder un cœur tendre et ouvert à Dieu. David va dire ceci dans ce psaume 51, « Un cœur brisé et humilié, ô Dieu, tu ne le méprises pas. » Et nous avons un Dieu qui sait relever, qui sait restaurer. Quand on voit le roi David et le roi Saül, pourtant David, il va y avoir des conséquences hein, sur sa faute. Des conséquences dramatiques pour sa famille. Mais David va faire confiance à Dieu. Et entre les deux hommes, pourtant, Saül, il a fait beaucoup moins de bêtises. Alors à la fin, il va en faire, puisqu'il va être perdu. Mais au début de sa vie, il en fait beaucoup moins. Pourtant, c'est le roi David, ici, qui a le bon cœur. Ce cœur que Dieu va appeler, c'est l'homme selon mon cœur. On pourrait dire, j'imagine certains à la cour de David, c'est ça l'homme selon le cœur de Dieu, il trompe sa femme, il va tuer. Mais non, c'est pas ça que Dieu regarde. Des fautes, nous en commettons tous, mes frères et sœurs. On le sait, on en parle. Ce qui compte, c'est la réaction face à nos fautes. Est-ce que je suis capable d'écouter quand Dieu me reprend à travers sa parole ? Bon, ça, on va tous dire oui à cette réponse. Donc je vous la donne, parce qu'on dit tous oui, parce qu'on choisit des fois ce qu'on décide de voir ou pas. Mais est-ce que aussi je sais me faire reprendre quand c'est quelqu'un d'autre qui vient me parler ? Un chrétien ou pas ? qui vient me dire « là, ça va pas », comment je réagis là ? Est-ce que je me braque ? Ou est-ce que quelque part, j'écoute ? Un vieil homme disait, je vais conclure comme cela, un vieil homme disait un jour « mon cœur est comme un chemin de campagne, si je passe dessus chaque jour, il reste souple. Il reste dégagé ce chemin. Mais si je le laisse des mois sans y marcher, le vent et la pluie durcissent. » Puis il va ajouter « c'est pour ça que chaque matin je parle à Dieu. Parce que je ne veux pas que mon cœur devienne une route fermée, un champ où de l'herbe pousse. » Est-ce que nous entretenons du coup cette relation à Dieu pour que Dieu puisse avoir l'occasion de venir nous dire « stop, là ça va pas. Là, tu te trompes. » Le roi David, malgré le fait qu'il va pécher, il a développé une relation à Dieu. Il va dire dans un des psaumes, hein, et vous allez me dire, c'est terrible cette histoire. Pendant qu'il fait cette histoire hein, avec Bathsheba, où il va la tromper, il va la tuer, il passe chaque jour du temps devant Dieu. Sauf qu'en fait, il ne voit plus que ce qu'il fait, c'est mal. Et il faut que le prophète arrive pour lui dire, mais vu qu'il passe du temps avec Dieu, il arrive à écouter. La claque pour lui, elle doit être monumentale, hein, parce qu'il croit passer du temps devant Dieu, alors qu'il est dans l'erreur complète, mais il saisit quand même l'occasion que Dieu lui tend, pour ne pas s'enfoncer dans quelque chose d'encore plus mauvais, d'encore plus mortel. Jean-Claude Roman va dire ceci à son procès. Il y aura un moment dans son procès, un instant assez terrible et assez particulier. En fait, durant tout le procès, il va être insensible et froid. Il ne réagit pas quand les juges et quand on présente les morts qu'il a fait, qui sont quand même sa femme et ses enfants et ses parents. Il reste insensible et froid. Aucune émotion. Et le seul moment où il va s'effondrer, il va montrer de l'émotion, c'est quand il va parler de son chien qu'il a aussi tué. Et du coup, tout le monde va dire, mais c'est incroyable. Il réagit pour son chien qu'il a tué, mais pour sa famille, il réagit pas. Et Jean-Claude Roman va dire ceci. C'était le seul à qui je faisais des confessions. C'était le seul qui savait qui j'étais. Et c'est pour ça qu'il s'effondre. Et là, on mesure toute la tragédie de l'endurcissement. Quand un homme est plongé dans le péché, il finit par ne plus supporter la lumière. Quand il n'y a plus personne à qui confier sa faute, le cœur se ferme. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas un chien à qui parler. Un chien, bah oui, Jean-Claude Roman, il avait un chien, mais un chien, ça fait rien dans la vie. À part aboyer, son chien, il n'aurait pas pu lui conseiller quelque chose. Nous avons le Seigneur. Nous avons un Dieu vivant sur qui nous pouvons compter. Un Père plein de grâce. Qui nous permet aussi, qui connaît notre... Oui, frère et soeur, Dieu connaît notre cœur. On ne peut pas lui mentir devant lui. Et comme je disais la semaine dernière, mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous confessions nos fautes. Parce que là, on montrera l'humilité, le cœur brisé, le cœur sensible, pour que le Seigneur puisse agir au plus profond de nous, dans nos caractères, dans nos comportements. Alors, le péché, il est large. Hein. Est-ce que nous arrivons à nous confesser devant Dieu ? Il nous a aussi donné des frères et sœurs en Christ, avec qui marcher dans la vérité. À nous de bien les choisir. Choisissons des quelqu'un et une personne de confiance à qui nous pouvons nous confier. Confier nos joies, ça on sait le faire avec tout le monde, mais aussi nos défis personnels. Le danger, c'est quand nous avançons seuls, et celui qui avance seul dans la vie chrétienne, il ne va jamais loin. Quand nous cachons ici ce que Dieu veut guérir, nous laissons ici la place et le piège de l'endurcissement nous gagner. Saül a laissé son cœur s'endurcir, David l'a laissé se briser, et Jésus, lui, il est venu pour nous donner ce cœur nouveau, un cœur de chair. Je conclue avec ce passage, j'ai mis le passage, Gwendoline. Psaume de David. « Tant que je gardais le silence, mes os se consumaient, je gémissais sans cesse. Car jour et nuit, ta main pesait sur moi, ma vigueur s'était changée en sécheresse d'été, je te fais connaître mon péché. » Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur. Et toi, tu as pardonné ma faute. Tu as pardonné mon péché. Intéressant. Hein ? David, alors qu'il fait le mal, Il passe du temps devant Dieu, mais il ne confesse pas ce qu'il fait. Peut-être, alors le texte ne dit pas, peut-être qu'il se dit « Dieu sait mon cœur. Je suis qu'un homme après mortel. » Mais quand il y a l'occasion qui se présente, quand le Seigneur dévoile, il saisit l'occasion et il confesse sa faute. Il va écrire plusieurs psaumes hein, suite à cette histoire qu'il a vécue, où on voit un homme quelque part qui a su laisser au Seigneur la place. La place pour le rétablir, pour le restaurer pleinement. Un Dieu, et nous avons mes frères et sœurs ce matin, c'est un bon rappel, hein, un Dieu qui se plaît à pardonner. Nous avons du coup ce confident qui est là, qui est bien mieux qu'un chien, comme Jean-Claude Rouman, à qui nous pouvons déposer tout à ses pieds pour que lui puisse faire son œuvre ici de guérison, de restauration. Merci Seigneur encore pour ta parole ce matin. Je te prie pour chacun de nous, Père. Je sais que ce n'est pas évident comme sujet. Tu peux voir, mon Dieu, combien le péché est un sujet qui nous dérange. Mais nous voulons, mon Dieu, être comme le roi David, être simple devant toi. Tu connais chacun de nos cœurs ici présents ce matin, mon Dieu, et je veux vraiment nous remettre dans tes mains. Devant toi, Seigneur, rien n'est caché. Tu connais toutes nos stratégies, tous nos caractères, tout ce que nous essayons de te cacher, dans l'illusion que nous pouvons te les cacher. Mais toi, tu sais. Seigneur, ce matin, je veux te prier de venir nous donner un cœur rempli d'humilité, que nous puissions confesser nos fautes. Comme toi, tu le demandes, Père, ce n'est pas une option, que nous puissions confesser, dire de notre bouche ce que nous faisons mal pour que te laisser, toi, Seigneur Jésus, la place dans nos vies et pour que ton Saint-Esprit puisse être ce médicament, ce parfum, cette puissance qui vienne encore restaurer les vies, des vies brisées, des vies restaurées. Toi, tu sais faire, Seigneur. Aide-nous encore à être entiers devant toi, à ne pas être comme le roi Saül ou comme tant de femmes qui ont le cœur endurci. Seigneur, je veux te prier ce matin, n'endurcis pas nos cœurs. Que dans nos fautes, mon Dieu, tu puisses encore parler. Que la voix de ton esprit puisse encore parler à nos cœurs. Pour que nous puissions encore saisir la grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est ta parole qui le dit. Que nous puissions aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, saisir ta main. Merci Père. Travaille au plus profond de nous, Jésus. Amen. Que quelques voix s'élèvent.
Continue son œuvre de libération et de sanctification et que ne baisse pas les bras, mais au contraire, on se tienne les bras au sérieux. Et je te remercie vraiment. Béni sois-tu, notre Père, notre Dieu, et béni aussi à David qui nous a renseigné ce matin et chaque personne qui participe à ce culte et qui aime beaucoup.
Mon Dieu Saint-Esprit, viens encore ce matin. Viens souffler, mon Dieu, dans les rangs. Mon Dieu, je veux vraiment nous remettre dans tes mains. Toi seul es capable d'agir. Je veux te prier, mon Dieu, pour chacun de nous, c'est vrai. Pour nous qui te connaissons, mon Dieu. Mais je veux aussi te prier, mon Dieu, peut-être pour ceux ou celles, mon Dieu, ce matin, qui peut-être est dans ce chemin de destruction, ce cœur endurci. Mon Dieu, je veux te prier, Saint-Esprit. Tu es celui qui est capable de faire ce miracle, et d'un cœur de pierre, tu es capable de remettre ce cœur de chair. Saint-Esprit, viens passer encore, viens souffler, pour que tu puisses réveiller dans ces cœurs quelque chose de saint, quelque chose qui permet la repentance, mon Dieu. Toi seul es capable de le faire, toi le consolateur, toi qui viens restaurer les vies, tu es aussi celui qui crée ce début de repentance. Viens encore Jésus, viens Saint-Esprit parler. vient agir, même dans le cœur qui peut être le plus dur et le plus fermé ce matin. Amen.